Bonjour à tous. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mamadou Oumfa et comme toujours, Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine.
Bonjour Mamadou, bonjour à tous les amoureux du football. Au moment où s'achève la Coupe du Monde de cette discipline sportive, nous avons choisi de nous intéresser à une campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA menée par Médecins Sans Frontières en République démocratique du Congo.
Le message principal qu'on veut faire passer, c'est important de se faire dépister, de connaître son état sérologique. Et même si le résultat est positif, on peut mener une vie normale, on peut avoir des enfants, on peut continuer. Et donc on veut banaliser en fait la maladie, d'en parler d'une façon simple, comme on parlerait d'une autre maladie.
Une campagne de sensibilisation utile dans un pays où, selon une étude sur l'index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, de nombreux préjugés persistent sur cette maladie.
C'est plutôt dans des milieux reculés où les gens ont encore des préjugés sur l'infection à VIH. Donc nous pensons que cela est lié aussi au degré d'éducation.
Pour plus de détails sur cette étude et sur la campagne de Médecins Sans Frontières, restez à l'écoute de ce programme qui commence par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité.
Et l'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin.
Bonjour Mamadou.
Parlons tout d'abord de la recherche d'un vaccin contre le VIH-SIDA. Des recherches semblent sur une piste prometteuse.
Des chercheurs ont fait état le 30 juin dernier d'un progrès encourageant avec un vaccin expérimental qui a provoqué une réaction immunitaire chez des humains et protégé des singes de l'infection. Ces résultats représentent une étape importante, a souligné le directeur de l'étude, le virologue Dan Barouk, dans un communiqué de la revue The Lancet. Pour le professeur Jean-Daniel Lelièvre de l'Agence française de recherche sur le sida, ce n'est probablement pas le vaccin définitif, mais ça peut être une avancée phénoménale. Selon lui, dans le meilleur des cas, ces chercheurs produiront un vaccin administrable dans presque 10 ans.
Presque 10 ans, un horizon assez lointain. Et c'est pourquoi, Firmin, il faut se garder de tout triomphalisme pour le moment.
Oui, Mamadou, et c'est d'ailleurs l'avis de François Venter de l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud. Je ne peux pas répéter assez à quel point nous avons besoin d'un vaccin, mais on a déjà connu ça, des vaccins expérimentaux prometteurs qui ne sont pas concrétisés, a-t-il commenté. Toutefois, le développement de ce potentiel vaccin est maintenant suffisamment avancé pour lancer un test sur 2600 femmes en Afrique australe. D'ici là, et malgré le progrès de la médecine dans la prévention et le traitement du sida, les chercheurs insistent sur les mesures de protection, à savoir les rapports sexuels protégés, l'usage des seringues neuves, la stérilisation du matériel médical, entre autres.
Des mesures bien connues des habitués de cette émission. Poursuivons ce tour d'horizon de l'actualité santé avec un salon africain destiné aux acteurs de santé, un salon qui aura lieu à Abidjan en octobre prochain.
Il s'agit en fait de la deuxième édition du salon intitulé Africa Santé Expo. Ce salon va regrouper des participants issus des secteurs pharmaceutiques, cosmétiques, médecine et médecine traditionnelle. Il aura pour thème la démarche qualité au service du développement du système de santé et du bien-être. La démarche qualité, c'est savoir éviter les maladies, a déclaré Linda Kabore, pharmacienne et organisatrice de ce salon. Nous allons montrer les implications et les conséquences de la dépigmentation, ce que les femmes qui se dépigmentent encourent comme risque en utilisant des produits qui affectent la peau, parce que ça passe par le sang, ça passe par les reins. On ne peut même plus accoucher par césarienne, car ce type de peau n'est pas favorable à une intervention chirurgicale, a-t-elle ajouté.
En Côte d'Ivoire, en tout cas, les autorités n'ont pas attendu ce salon pour lutter contre les produits éclaircissants très en vogue dans ce pays.
Tout à fait, Mohamedou, et le gouvernement ivoirien a même interdit en 2015 l'utilisation des produits cosmétiques éclaircissants, les crèmes et autres lotions dites de dépigmentation qui comportent notamment du mercure et ses dérivés, des corticoïdes, de la vitamine A et de l'hydroquinone. Au-delà du seuil de 2% sont interdits. La dépigmentation de la peau rencontre depuis des années du succès auprès des jeunes africaines, notamment des ivoiriennes. Mais aucune étude ne permet de savoir quelle part de la population féminine y a recours.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Et terminons cette page d'actualité en parlant de la recherche du vaccin contre Ebola avec des chercheurs espagnols qui travaillent sur un vaccin qui serait efficace contre toutes les souches du virus de la maladie.
Ces chercheurs de l'hôpital public madrilène du 12 octobre travaillent depuis des mois en collaboration avec deux autres établissements de la capitale espagnole sur des échantillons de sang de trois patients atteints par le virus et soignés en Espagne. Selon Rafael Delgado, directeur de cette équipe de chercheurs, les trois patients ont développé des anticorps très efficaces contre la maladie, mais en petite quantité et seulement efficace contre la souche Zaïre. Le défi de ces chercheurs est désormais de produire des anticorps à grande échelle à travers un vaccin qui puisse être efficace contre toutes les souches du virus, a ajouté Rafael Delgado, responsable du service de microbiologie de cet hôpital.
Il faut quand même préciser, Firmin, qu'un autre vaccin expérimental existe. Il s'agit du RVSV-Zebov qui a même été administré lors de la récente épidémie en RDC.
Effectivement, Mamadou, ce vaccin développé par l'Agence de la Santé publique du Canada a été jugé très efficace par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cependant, ce vaccin n'est efficace que contre la souche Zaïre. Le laboratoire américain Johnson & Johnson développe pour sa part un vaccin expérimental contre deux souches. Rappelons qu'il existe trois souches de virus associées à d'importantes flambées en Afrique. La souche Zaïre identifiée en 1976 au Zaïre, actuellement RDC, la souche Soudan reconnue en 1979 au Soudan et en Ouganda, et la souche Bundibugyo identifiée en 2008 en Ouganda.
Merci Firmin pour toutes ces explications et toutes ces nouvelles.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
La 21e édition de la Coupe du Monde de football organisée en Russie est sans aucun doute le plus grand événement sportif mondial de l'année. Elle intéresse des millions de personnes dans le monde, en particulier en Afrique, où le football est quasiment une religion. En République démocratique du Congo, Médecins sans frontières, MSF en sigle, a saisi cette occasion pour parler du VIH-Sida. MSF a produit et fait diffuser une vidéo de sensibilisation pour encourager les populations à se faire dépister, mais également à faire barrage contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Voici les explications de Pamela Van Zulen, chef de projet SIDA pour Médecins sans frontières en RDC. L'entretien a été réalisé au siège de MSF à Kinshasa, la capitale de la RDC.
Pamela Van Zulen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice du projet SIDA pour Médecins sans frontières ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de discrimination des personnes qui vivent avec le VIH-Sida ici en RDC. La première question que j'aimerais vous poser, comment est-ce que MSF prend connaissance des cas de personnes victimes de stigmatisation? On sait que généralement, c'est des personnes qui se cachent, qui parlent très peu. Comment est-ce que vous faites pour recenser ces personnes?
Nous, dans les structures hospitalières dans lesquelles on travaille ici à Kinshasa, on les découvre au moment où elles arrivent aux soins, aux urgences, dans un état très très avancé de la maladie, parfois presque mourante même. Et c'est à ce moment-là qu'on les découvre, ces personnes-là. Elles restent jusque très longtemps, très tard chez elles, cachées parfois. Et la famille essaye de les sauver et de les amener chez nous, mais c'est déjà presque trop tard en fait. Et parfois, c'est même des patients qui ont déjà été soignés chez nous, qu'on avait déjà hospitalisés il y a quelques mois, il y a une année, qui sont sortis guéris, qui ont repris leur traitement, mais avec le contexte de stigmatisation, que ce soit dans la société, à l'église, avec la famille, ces personnes se sont fatiguées, elles ont un peu renoncé à lutter contre la maladie, à abandonner leur traitement, parce que c'est dur, c'est un traitement à vie quand même. Et puis, suite à ça, elle retombe malade en fait. Et c'est un cercle vicieux en fait.
Vous découvrez ces malades au moment où elles viennent à vous. Oui. Est-ce que vous ne songez pas, par exemple, à mettre en place des structures ou des numéros qui facilitent peut-être l'accès à ces personnes, permettre à ces personnes de se faire découvrir, de mieux se confier à vous, parce que c'est des personnes qui souvent ont peur de se faire savoir, de se faire découvrir.
Tout à fait. Nous ne sommes pas le seul acteur impliqué dans la lutte contre le VIH.
Et donc, il y a bien sûr le gouvernement, le ministère de la Santé, qui est impliqué. Il y a une ligne verte qui existe, en fait, et les gens peuvent appeler cette ligne verte, poser des questions et connaître les endroits près de chez eux où ils peuvent aller se faire dépister et recevoir un traitement. Aussi, par rapport à la confidentialité, en fait, il existe aujourd'hui des PODIS, c'est des postes de distribution communautaire. En fait, c'est des petits endroits dans la communauté gérés par des personnes vivant avec le VIH où le dépistage peut se faire de façon aussi un peu plus confidentielle.
Alors, quelles sont les formes de stigmatisation qui reviennent le plus chez les personnes et qui arrivent à vous? Est-ce que c'est des stigmatisations dans les milieux professionnels, dans les hôpitaux, dans les écoles? Quelles sont les formes de stigmatisation dont se plaignent le plus les patients, les victimes que vous recevez?
En fait, partout, même dans les écoles, même à l'université, dans le milieu du travail, dans la communauté, ça peut être dans tous les endroits où elles sont. On a fait une enquête, en fait, il n'y a pas très longtemps, on a fait un sondage dans une zone de santé dans laquelle on travaille, à Bumbu, pour un peu connaître le niveau de connaissance, comprendre le niveau de connaissance du VIH de la population. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'encore que le VIH se transmet par la salive ou en touchant une personne, en buvant dans le même verre. Donc il y a encore beaucoup de mythes autour de la maladie qui n'aident pas du tout, en fait. Et donc ça joue vraiment contre les personnes vivant avec le VIH.
Alors, à l'occasion de la Coupe du Monde, vous avez lancé une initiative avec une vidéo d'une star bien connue ici au Congo, Chabani Nonda, qui vise à sensibiliser les gens pour éviter la stigmatisation et la discrimination. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Quelles sont les cibles et quels sont les résultats attendus de cette campagne?
La cible de la campagne, c'est clairement les jeunes. On sait qu'ils vont être autour de leur écran pour regarder les matchs. Ça va être bien sûr surtout un public masculin, mais on vise bien sûr aussi les jeunes filles. Les résultats attendus, c'est que les messages principaux qu'on veut faire passer, c'est important de se faire dépister, de connaître son état sérologique. Et même si le résultat est positif, aujourd'hui, il y a des traitements ARV qui existent, ils sont gratuits, et on peut vivre avec la maladie. On peut mener une vie normale, on peut avoir des enfants, on peut continuer à vivre. Et donc on veut d'une certaine façon banaliser en fait la maladie, d'en parler d'une façon simple comme on parlerait d'une autre maladie, et que les gens n'aient pas peur de franchir le pas de la porte du centre de santé pour se faire un test et puis de rejoindre après ses amis pour regarder ensemble le match.
Alors, au-delà de cette initiative qui bien sûr va durer un mois, le temps que dure la Coupe du Monde, est-ce que vous avez d'autres projets du genre pour combattre et réduire les cas de stigmatisation?
On vise à faire des campagnes deux fois par an. Donc, bien sûr, nous, on est surtout investis dans la prise en charge médicale. Donc, faire une campagne de communication, ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Et nous, on est des médecins, on est des infirmiers. Donc, notre mandat principal, c'est d'être au chevet du malade, au chevet du patient, lui offrir les meilleurs soins. Mais de temps en temps, on sort de notre hôpital et puis pour s'exprimer devant les médias et raconter un peu ce qui se passe.
J'allais vous demander justement si vous aidez peut-être, vous orienter les gens, parce qu'il y a un aspect, l'aspect juridique, qui permet de sanctionner, de punir ceux qui posent des actes de discrimination. J'allais vous demander si vous ne pensez pas aussi peut-être à aider les gens, à sensibiliser les gens là-dessus, de leur dire qu'il existe effectivement des lois qui permettent de punir ceux qui posent des actes de discrimination naturels.
Tout à fait, et on a souvent l'occasion de l'expliquer aux patients. On se retrouve parfois avec des patients qui sont rejetés de façon complètement illégale, par alors, que ce soit au niveau du travail ou autre. Et donc là, on les conseille et on les oriente vers les services qui sont gérés par la société civile. Il y a un service juridique qui existe et qui permet de conseiller ces personnes vivant avec le VIH pour faire qu'elles puissent se faire respecter leurs droits.
Alors, on note aussi que la prévalence du VIH ici en RDC est très faible. On parle même d'ailleurs d'1% ici au niveau de Kinshasa. Est-ce que, en fait, ce n'est pas parce que les gens ne se font pas dépister que la prévalence est aussi faible? Est-ce que, aussi, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des campagnes offensives, les gens ne viennent pas vers les hôpitaux alors qu'elles sont porteurs du virus? Est-ce que vous menez parfois des campagnes? Vous n'attendez pas seulement les gens dans les hôpitaux, vous allez aussi vers eux?
Alors, par rapport au pourcentage de la prévalence, on se base sur une étude officielle qui a été faite il y a plusieurs années et qui parle de 1,2% pour la RDC, dans certaines zones du pays un petit peu plus
plus élevé. Donc ça, on peut pas dire aujourd'hui si est-ce que ça devrait pas être plus élevé ou pas. Et on doit se baser sur une étude vraiment scientifique pour ça. Par contre, c'est vrai que quand on fait des campagnes de dépistage, donc par exemple lors d'un concert ou lors d'un événement où on met une tente et on invite les gens à venir se faire dépister, on trouve le même taux de prévalence, donc plus ou moins 1%. On trouve peu de cas positifs. On a fait plusieurs fois des campagnes comme ça auprès de populations clés, auprès des professionnels du sexe, où la prévalence peut être un petit peu plus élevée, mais on ne trouve pas des prévalences qui sont vraiment très différentes. Et raison pour laquelle, du coup, on ne fait plus des grosses campagnes, parce que ça demande des moyens énormes pour trouver finalement quelques cas. Et on se concentre beaucoup plus au niveau des hôpitaux, au niveau des structures de santé, sur le dépistage dans les services. Donc, s'il y a un patient qui arrive mal nourri en médecine interne, le prestataire et le réflexe de faire le dépistage, il se dit « Ah, il y a peut-être autre chose derrière ». Et donc on s'investit beaucoup plus là-dedans. On fait aussi tout ce qui est index testing, c'est-à-dire que un patient VIH positif, on l'invite, lorsqu'il aura pu partager son statut sérologique avec sa famille, on l'invite à amener sa famille pour qu'elle se fasse dépister. Parce que là, bien sûr, on trouve une prévalence plus élevée parmi ses partenaires sexuels, ses enfants.
Oui, j'allais justement vous demander si une personne vient vers vous, vers MSF, et se dit « J'ai été rejeté, j'ai été victime de stigmatisation », qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelle assistance vous apportez à cette personne?
Donc nous, au-delà des soins médicaux en tant que tel, on a tout un service de soutien psychosocial. Pour nous, ça fait partie du package à part entière, quoi. Autant que donner le traitement, c'est le support psychosocial. Et donc on a des conseillers qui écoutent le patient, que ce soit au moment où il se fait dépister, au moment où il est, même s'il est sous traitement depuis un an, et on a différentes manières de parler avec lui, d'essayer de comprendre ses problèmes, d'essayer de l'appuyer, d'essayer de l'aider à pouvoir vivre ses problèmes et continuer son traitement, en fait, pour le soutenir dans son adhérence. Voilà, donc ça c'est nous ce qu'on fait à notre niveau pour aider les patients. Et par rapport à la stigmatisation, on veut aussi de plus en plus pouvoir mieux comprendre aussi pourquoi les églises font passer des messages qui sont faux. Il y a quand même certaines des églises qui disent aux patients qu'ils doivent arrêter leur traitement ARV parce qu'ils vont être guéris par la prière. Et tous ces messages-là, ça, évidemment, ça n'aide pas.
C'était donc le docteur Pamela Van Zullen, chef de projet SIDA pour Médecins sans frontières en République démocratique du Congo.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Il faut reconnaître qu'en RDC, de nombreuses personnes ont toujours peur de se faire dépister. Également, la stigmatisation et la discrimination continuent contre les personnes vivant avec le VIH. C'est en tout cas ce qu'a démontré une enquête sur l'index de stigmatisation menée par l'UCOPLUS, l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH. L'enquête a été conduite de septembre à novembre 2012. 1475 personnes ont été interrogées sur l'ensemble du territoire congolais. Le docteur Olivier Walla Walla a fait partie de l'équipe de coordination de cette étude. Depuis Kinshasa, il nous a parlé des constats de la dite étude.
Ce que nous avons à constater, effectivement, la discrimination en République démocratique du Congo existe sous toutes ses formes. Mais il a été démontré que la stigmatisation et la discrimination étaient beaucoup plus prononcées dans des milieux ruraux, moins dans les villes en province, moins encore en grandes villes comme la capitale à Kinshasa. Donc, à Kinshasa, les gens comprennent mieux, ont plus la facilité de collaborer ou de vivre avec des personnes infectées, moins que dans les chefs-lieux des provinces, encore moins dans des villes. Donc, l'effet de discrimination dépend d'une ville à une autre. Donc, c'est moins prononcé dans des grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Bunia, et Goma, et c'est beaucoup plus prononcé dans les milieux ruraux.
Est-ce que c'est une question de culture, à votre avis?
Oui, nous pensons que cela est lié à une question de culture, aussi à une question d'éducation. Il y a toujours des préjugés vis-à-vis des personnes qui vivent avec le VIH. En ville, où les gens sont suffisamment sensibilisés, éduqués, les gens ont compris que c'est une infection chronique avec laquelle les gens peuvent vivre normalement, sans problème. Et c'est plutôt dans des milieux reculés où les gens ont encore des préjugés sur l'infection à VIH. Donc nous pensons que cela est lié aussi au degré d'éducation. Puis dans le milieu où les gens sont beaucoup plus instruits, la discrimination est de moins en moins importante par rapport aux villes où les gens ont un niveau d'instruction ou des cultures, je dirais, un peu moins que par rapport aux grandes villes.
Et l'étude, elle a porté sur tout le territoire de la RDC?
Oui, l'étude avait concerné les grandes villes de l'ancienne configuration de la République. L'étude était menée que sur 10 provinces et que ça n'avait concerné que le chef-lieu des provinces. Nous pouvons dire que ce que nous avions à l'époque comme résultat était une photographie ou un cliché de la perception que les gens avaient du VIH dans les grandes villes. Mais il était démontré que les gens qui venaient des milieux beaucoup plus reculés avaient une perception un peu différente de ceux qui vivaient en milieu urbain.
Alors, après cette lecture, y a-t-il un plan que vous entendez mettre sur pied pour tout justement changer les mentalités des communautés quant à l'image et au traitement qu'elles infligent aux personnes vivant avec le VIH-SIDA?
Oui. Après que l'étude ait démontré que toutes les formes de discrimination et de stigmatisation étaient prévalentes, qui sont prévalentes à la République démocratique du Congo, un certain nombre d'actions étaient arrêtées afin de pouvoir améliorer la situation. Et des projets étaient exécutés pour pouvoir améliorer la perception et la compréhension des gens par rapport au VIH. C'est ce qui avait été fait dans la communauté. Normalement, si les moyens le permettaient, on devait rentrer pour pouvoir encore sonder la population afin de voir si la perception qu'elle avait vis-à-vis de l'infection en VIH ou vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH, si la discrimination et la stigmatisation sont toujours prévalentes, même celles où il y a une amélioration. Mais un certain nombre d'actions ont été menées pour pouvoir améliorer cette sensibilisation, l'éducation à travers les écoles et des ONG engagées dans la lutte contre le VIH pour pouvoir améliorer cette situation de discrimination et de stigmatisation vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH.
Et quel est le message que vous véhiculez pour tout justement éradiquer la discrimination auprès des personnes vivant avec le VIH?
Le problème, c'est que la discrimination, il y a plusieurs formes de discrimination. La discrimination n'est pas seulement externe. L'étude a montré, certes, qu'il y avait la discrimination au niveau du milieu d'éducation, il y avait la discrimination au niveau du milieu professionnel, il y avait la discrimination au niveau social ou au niveau des églises, mais il y a aussi le taux de stigmatisation des personnes avec le VIH elles-mêmes vis-à-vis des personnes avec le VIH. Et par rapport à tous ces constats, des actions ont été menées pour pouvoir améliorer la perception des personnes avec le VIH elles-mêmes d'abord par rapport à sa situation et aussi la communauté par rapport aux personnes avec le VIH.
Et avez-vous un message particulier aux personnes vivant avec le VIH-SIDA?
Bon, pour ce qui concerne les personnes avec le VIH, c'est que nous pouvons dire la majorité des personnes vivant avec le VIH sont suffisamment éduquées et sensibilisées par rapport à l'infection. Selon les comportements des personnes que nous côtoyons, nous pensons que des améliorations ont quand même été constatées dans le chef des personnes avec le VIH. Et vu le travail que les organisations de lutte contre le VIH ont eu à mener, nous pensons qu'il y aurait suffisamment de changements par rapport à cette question-là.
Donc, selon vous, il faudrait une autre étude pour actualiser aussi les données, même les messages, quoi.
Oui, les messages ont été actualisés. Mais je pense qu'il nous faudra beaucoup de moyens pour pouvoir, encore une fois, mener une étude pour faire une comparaison des clichés que nous avons en 2012 et l'état actuel des choses. Et nous lançons d'ailleurs un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui venir en aide à cette organisation afin de pouvoir l'aider à avoir des moyens pour pouvoir mener une nouvelle étude, afin de pouvoir faire une comparaison, voir si le travail abattu par l'Union congolaise des associations de personnes vivant avec le VIH et les autres associations de lutte contre le VIH qui travaillent en collaboration avec elles ont eu à avoir un effet positif sur la population au niveau de la République.
Nous remercions le docteur Olivier Wallawalla qui nous répondait depuis Kinshasa en RDC.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Nguenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Là, en ligne, nous sommes avec Archiduc Théodore. Bonjour Théodore. Vous nous appelez de N'Djamena, c'est ça? D'accord. Et vous avez une question à poser à l'expert, au docteur Nguenkap, c'est ça?
Exactement, c'est ça. Et ma question est de savoir comment lutter efficacement contre les vers intestinaux.
Comment lutter efficacement contre les vers intestinaux, c'est ça votre question?
Oui, ouais, c'est bien ça. Ouais.
Merci beaucoup Théodore d'avoir appelé.
D'accord, merci bien de nous parler.
Merci beaucoup.
Ce que je peux dire à Théodore, c'est que les vers intestinaux, et on en a notamment trois, les oxyures, les ascaris, le vers solitaire ou ténia, sont des parasites qui ne peuvent survivre seuls car ils ont besoin d'un organisme hôte pour rester en vie et surtout pour se reproduire. Et ces vers intestinaux, et notamment les larves qui les accompagnent, sont souvent présents, bien sûr, dans la sphère digestive et éliminés dans les matières fécales. Pour lutter efficacement contre les vers intestinaux, il faut dans un premier temps, et ça c'est le premier conseil que je donnerai à Théodore, respecter des règles d'hygiène qui sont assez strictes. La première règle d'hygiène, c'est déjà se laver les mains après avoir utilisé les toilettes, car la plupart de ces vers intestinaux se propagent par les matières fécales. Il faut également que les ongles soient bien coupés, parce que parfois ces vers intestinaux peuvent aller se réfugier sous les ongles et lorsqu'on s'alimente par exemple, on va finir par les ingurgiter et se réinfester, alors qu'on s'en était débarrassé initialement. Par ailleurs, les larves ou les vers intestinaux qui sont éliminés par les matières fécales peuvent parfois être présents dans le linge intime. Je vais parler notamment des sous-vêtements, je vais parler des serviettes de toilette, je vais parler des gants de toilette. Et ces éléments-là, à savoir les serviettes, les gants de toilette, les objets intimes, ne doivent pas être partagés dans le cercle familial. Parce que ça peut aussi être un moyen de contamination, de transmission de l'infection chez quelqu'un qui avait réussi à s'en débarrasser. Et il faut laver le linge, notamment la literie, à plus de 60 degrés parce que c'est la température qui va permettre de totalement éliminer ces vers intestinaux et les larves qui s'y accompagnent. Et enfin, avoir une très très bonne hygiène alimentaire. Consommer de la nourriture qui est une nourriture qui est bien, si c'est la viande, essayer de consommer de la viande qui est cuite, qui est bien cuite, et non la viande crue. Et si c'est des légumes ou si c'est des fruits, essayer de laver correctement les fruits pour débarrasser les fruits d'une certaine contamination. Mais bien évidemment, ça c'était des mesures de prévention. Mais si on a déjà été infesté par le vers intestinal et qu'on veut se débarrasser, il faut consulter un médecin. Et ce médecin-là va prescrire un traitement qui s'appelle un vermifuge. C'est un traitement qui va permettre de nettoyer toute la sphère digestive du vers intestinal à l'aide d'un médicament.
Et si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous vous informons également qu'il existe une version télé de ce programme. Elle est diffusée tous les mercredis sur la page Facebook de VOA Afrique et sur nos télévisions partenaires. Vous pouvez aussi regarder et télécharger toutes nos émissions sur le site web de VOA Afrique, www.voafrique.com. Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA menée par Médecins Sans Frontières en République démocratique du Congo. Une initiative qui vise à encourager le dépistage et lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Pamela Van Zoelen, chef du projet SIDA pour MSF en RDC. Elle nous a parlé des cibles et résultats attendus autour de cette campagne organisée pendant la 21e édition de la Coupe du Monde de football. Nous avons aussi écouté le docteur Olivier Walla Walla, co-auteur d'une enquête sur l'index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-SIDA en RDC. Il nous a parlé des constats qui se dégagent de l'enquête. Nous leur disons merci.
Nous disons également merci à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béroma Tanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cheikh Thiero et de Karl Sterling qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Monezero et j'étais en compagnie de
Mamadou Oumfa.
Continuez à écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.